Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Зустрічі з оперною студією.
歌剧工作室的约会.
Opera Studio Rendezvous.
Встреча vom Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Встречи с оперной студией.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
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 Les rendez-vous de l'Opéra
Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des rendez-vous de l'Opéra Studio. Ça fait bien longtemps que j'ai disparu, que nous avons disparu, l'Opéra Studio, mais nous revoilà avec une invitée surprise qui est Carolina Albig. Bonjour Carolina.
Bonjour Sandrine.
Et Carolina, on peut dire que c'est une ancienne de l'Opéra Studio parce qu'elle a fait partie des promotions de saison 19-20 et de la saison suivante, saison 2020-2021. Donc, elle a passé 2 ans au sein de cette cellule d'immersion professionnelle que je ne présente plus, qui est toujours basée à la Comédie de Colmar, dans les bâtiments de l'ancienne manufacture. Et ma première question sera pour savoir exactement, chère Carolina, depuis quand fais-tu de la musique et surtout, es-tu chanteuse, es-tu pianiste? Vas-y, dis-nous.
Alors moi, je suis pianiste chef de chant. En fait, je fais de la musique depuis toujours. En fait, j'ai grandi dans une famille très musicale et on a toujours chanté beaucoup et je me souviens à 5 ans, j'ai dit alors là, je veux apprendre un instrument.
Et tu as commencé déjà le piano à 5 ans?
Ouais.
C'est très très jeune.
Oui, je sais. Mais c'était moi qui
ai dit. Tu avais envie vraiment?
Oui, j'avais vraiment envie. J'ai dit je veux apprendre un instrument.
Ouais.
Et mes parents étaient aussi un peu irrité, ils ne savaient pas trop quoi faire, donc ils se sont renseignés. Et je me souviens qu'ils ont dit donc, soit le violon, soit le piano. Mm-hmm. Et moi, j'ai décidé d'apprendre le piano. Voilà.
Mais c'est merveilleux, 5 ans. Mais tu as réussi à apprendre à lire les notes ou ton professeur a utilisé une méthode adaptée pour une enfant de 5 ans?
Non, j'ai vraiment appris à lire les notes. Mm-hmm. Et je savais même déjà un peu lire les notes parce qu'avant, j'ai joué la flûte à bec.
Ah oui.
Comme tous les enfants, en
Ah
fait.
Oui, mais tous les enfants de 5 ans ne jouent pas de la flûte à bec.
Oui, ça, c'est vrai.
Oui, tu étais assez précoce. Assez précoce. Et donc, l'élément déclencheur, finalement, a été ta vie de tous les jours puisque tes parents étaient musiciens. Tu as baigné dans la musique, en fait.
Oui, alors, c'était pas des musiciens, pas des professionnels, mais on a chanté beaucoup. Mon grand-père, particulièrement, avec qui... j'ai passé beaucoup de temps, qui était pas professionnel non plus, mais il a chanté beaucoup, il a joué beaucoup d'instruments. Et comme ça, j'ai grandi entourée de la musique, en fait. Et...
C'est magnifique.
Oui.
Et est-ce que, alors tu étais très 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 jeune, mais est-ce que tu te souviens d'un moment musical ou d'une émotion musicale particulière? Est-ce que celle la plus lointaine dont tu puisses te souvenir, ce serait quoi?
Oui, c'est ma mère qui chante pour que je m'endorme, en fait.
Oh, c'est mignon.
Ouais, elle a toujours chanté pour moi tous les soirs. Et,
ouais. Ah, donc la musique pour adoucir tes nuits. Oh, c'est tellement mignon. Et donc, tu as choisi d'être pianiste.
Oui.
Mais est-ce que tu ne connaissais pas à 5 ans le métier de chef de chant?
Non, pas du tout.
Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en quoi consiste le métier de pianiste chef de chant dans un opéra?
Alors, le chef de chant, il est là au tout début, en fait. Il est là pour préparer les partitions, les notes avec les chanteurs. On fait des coachings avec les chanteurs. On apprend les notes, les rythmes, la prononciation aussi. On découvre des idées musicales. Et après, quand les chanteurs connaissent leurs notes, Les chefs de chant sont aussi là pendant les répétitions mises en scène pour accompagner les répétitions mises en scène au piano pour remplacer l'orchestre, en fait.
C'est ça. Donc, le metteur en scène est là. Les chanteurs sont sur le plateau, chantent par cœur parce qu'ils ont appris leur rôle avec les pianistes chefs de chant. Voilà. Et le metteur en scène, donc, indique la mise en scène aux chanteurs. Et comme on ne fait pas venir un orchestre pour toutes les répétitions, c'est le pianiste qui joue ce qu'on appelle une réduction orchestre. Voilà. Et ça, c'est une partie du métier de chef de chant. Après que ces répétitions soient terminées, une fois que le metteur en scène a terminé sa mise en scène, est-ce qu'il y a une répétition où on passe tout l'opéra au piano? Est-ce que ça existe, cette répétition-là?
Oui, donc ça, c'est la générale piano. D'accord. Qui est la répétition la plus importante pour les pianistes, en fait, parce que c'est la première fois qu'on fait vraiment un filage de tout l'œuvre. Et c'est la première fois que les chanteurs ont leur costume, le maquillage, tout ça. Et on fait vraiment un filage sans arrêter au piano.
C'est
et
ça.
Et après, c'est l'orchestre qui arrive.
Et c'est ça. Et quand l'orchestre arrive, que devient le chef de chant? Est-ce qu'il va à la maison?
Non. Normalement, on passe au public, je dirais. Donc,
oui.
On est là, on écoute. On est un peu l'oreille pour le chef d'orchestre, en fait. On écoute la balance si tout se passe bien.
Et donc la balance, c'est-à-dire si l'orchestre n'est pas trop fort par rapport aux chanteurs,
voilà, ou si on entend bien
si tout
les chanteurs.
Est équilibré, pour savoir si tout est équilibré. Donc le chef de chant, il se place dans la salle comme le public finalement. Et donc
oui.
Il est là pour dire au chef si c'est équilibré ou pas entre les chanteurs et l'orchestre. Mais pourquoi le chef ne peut pas faire ce travail lui-même?
Oui, parce que le chef, il est devant l'orchestre, il a l'orchestre directement là, donc il peut pas entendre ce que le public va entendre à la fin.
D'accord,
et
d'accord.
C'est pour ça qu'on est dans la salle.
C'est très très important. Si c'est très équilibré, c'est grâce aux chefs de chant qui sont restés dans la salle pour les répétitions. Merci, messieurs, dames, les chefs de chant.
Voilà. Et on prend aussi des notes pour les chanteurs, parfois. Bah, il se passe quelque chose, les erreurs, et pour ça on est là pour prendre des notes et pour dire au chanteur après.
D'accord, oui, parce que évidemment toujours par cœur, on pense à la mise en scène, on pense à son costume peut-être qui est un peu serré, on est un peu chaud sous les projecteurs, enfin, on peut avoir beaucoup de petits problèmes sur la scène et donc on peut oublier parfois des petites choses musicales et les pianistes sont là, les chefs de chant, c'est bien pour ça que ça s'appelle chef de chant, sont là pour noter les petites erreurs. Parce que parfois, les chanteurs, sur le moment, se rendent compte qu'ils ont fait une erreur, mais ils n'ont pas le temps de se dire, bon, je me souviens qu'ici, je me suis trompée, parce que s'ils commencent à penser ça, eh bien, ils pensent plus à leur mise en scène et ça marche pas. Donc, le chanteur se trompe, mais c'est normal, il efface tout de suite de sa mémoire, et c'est pour ça que vous êtes là pour leur dire, attention, tu vois, là, tu t'es trompée. Et c'est très précieux, les chanteurs adorent quand on va les voir et qu'on leur dit ça, parce que ça les sécurise, je pense.
Oui.
Oui, c'est très, très important. Ah, j'ai une petite question. Est-ce que le chef de chant joue toujours pour accompagner des chanteurs ou est-ce que parfois il joue de longues parties tout seul?
Alors, ça peut arriver, particulièrement quand il y a des ouvertures. Et la plupart des opéras a une ouverture. Et jouer une ouverture, c'est... Oui, c'est quand même un peu comme...
Ben, c'est une mini-symphonie, en
oui.
fait, c'est ça.
Oui.
Et oui, pourquoi on jouerait l'ouverture? Parce que parfois, le metteur en scène... parfois, il y a une mise en scène sur l'ouverture. Donc, il faut
oui.
bien que les personnes qui sont sur la scène s'habituent à entendre l'ouverture et faire les gestes, etc.
Oui,
oui. oui. Et ça, c'est...
Commencer une répétition
par
ou
l'ouverture.
Général piano avec ça.
Oui, 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 il faut y aller. Hein.
Oui.
Oui, oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Alors, puisque nous parlons d'ouverture, tu as choisi, parmi les trois extraits que tu m'as proposés, tu as choisi un extrait de l'ouverture du Freischütz. Alors, en français, ça s'appelle le Franc-Tireur, qui est un opéra allemand de type Singspiel, c'est-à-dire une œuvre théâtrale jouée et chantée en allemand. C'est assez proche de l'opéra comique français, d'ailleurs. C'est en trois actes. Le monsieur qui a écrit la musique s'appelle Karl Maria von Weber. Et cet opéra, ce Freischütz, connut un triomphe lors de sa première qui a eu lieu à Berlin il y a 102 ans, le 18 juin 1821 exactement. Donc, quelques mots sur l'intrigue. Donc l'histoire se passe en Bohême. vers 1648, juste après la guerre, juste après la fin de la guerre de 30 ans. Max, jeune garde-chasse du prince, est considéré comme le meilleur tireur des environs, mais se désole terriblement car il vient de perdre au concours de tir où a triomphé Kilian, qui lui est un simple paysan. Alors bien sûr, il y a une histoire d'amour. Max aime Agathe, la fille du garde forestier Kuno, et il souhaite gagner le concours de tir du lendemain, dont l'enjeu est la nomination du nouveau garde-chasse et obtenir ainsi la main d'Agathe. Si vous voulez connaître la suite de l'histoire, il faudra aller voir le Freischütz la prochaine fois que ce sera joué à l'opéra. Et maintenant, nous vous proposons donc un extrait de l'ouverture de cet opéra. Bien que voilà une bien joyeuse musique pour commencer cette belle matinée. Nous écoutions donc l'ouverture du Freischütz dans la version dirigée par le maestro Carlos Kleiber à la tête de la Staatskapelle Dresden. Vous appréciez mon accent allemand, j'ai fait des progrès. Merci beaucoup. Alors, nous continuons, chère Carolina, et remontons un peu le temps. Donc, tu nous as dit que tu étais restée à l'Opéra Studio de 2019 à 2021. Est-ce que tu te souviens les œuvres que tu as travaillées durant ces deux saisons d'immersion professionnelle à l'Opéra Studio?
Oui. Alors, malheureusement, c'était les deux années qui étaient un peu Covid. Donc...
Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah oui.
Donc, on n'a pas fait beaucoup, mais on a essayé. Et j'ai joué des extraits des opéras que les chanteurs de l'Opéra Studio ont fait sur scène parce qu'on a fait des coachings au-dessus. Donc, par exemple, Parsifal ou La mort à Venise.
Oui, ce sont des opéras très, très longs et très, très compliqués à travailler.
Osalka.
Vous aviez le temps, étant donné que, bon, c'était Covid. Oui. Donc, les coachings, juste une petite parenthèse, un coaching, en fait, c'est une répétition musicale au piano.
Oui.
C'est ça. Voilà, c'est ça. Oui. C'était pour situer un petit peu, si certains amis auditeurs ou auditrices ne connaissaient pas le terme. Oui. Donc, en fait, vous êtes dans une salle, derrière un piano, toi derrière un piano, le chanteur avec sa partition. Et vous travaillez, et d'abord tu as travaillé toute seule pour pouvoir faire travailler le chanteur. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est comme à l'école, on travaille d'abord ses cours. Oui, c'est bien ça. Excuse-moi, je t'ai coupé. Donc vous avez dit, donc Parsifal, Wagner, et puis
La mort à Venise, et Rusalka, par exemple. Mais c'était que des extraits, les parties que les chanteurs de l'Opéra Studio ont chantées. Mais on a aussi fait des opéras en entier, par exemple L'heure espagnole de Ravel. On avait commencé Les rêveurs de la lune.
Ah oui, qui était... une création qui a été faite la saison dernière.
Oui.
Finalement, qui a été repoussée cause Covid. Oui.
On a fait une opérette, Friederike, de Franz Lehár, en allemand, c'est aussi très sympa. On a fait une version réduite de Hänsel et Gretel, en français, pour des enfants. Oui. Et pareil de Cenerentola, qui est donnée là en ce moment.
En ce moment, c'est ça. Donc, les versions réduites, c'est-à-dire ce sont des opéras qui ont été arrangés par des musiciens, par un musicien, pour une forme plus petite, c'est-à-dire souvent c'est joué juste au piano. Donc, encore une fois, le pianiste doit jouer la partition, la réduction d'orchestre. Et souvent, pour les formes réduites pour les enfants, le timing est un petit peu réduit pour que les enfants ne soient pas fatigués et puissent maintenir l'attention. Donc, en général, ce sont des spectacles d'environ une heure, c'est bien ça.
Oui, voilà. Et c'est public. Aussi, Hänsel et Gretel, c'est normalement en allemand, et Cenerentola, c'est en italien.
Oui.
Et là, on a fait des versions françaises.
Voilà, pour que ce soit plus accessible pour les jeunes.
Pour
les
enfants,
c'est très, très bien. Et d'ailleurs, tu me parles de plusieurs opéras qui sont chacun dans des langues très différentes. Oui. Ta langue maternelle, Carolina, eh bien, quelle langue ?
C'est allemand.
Allemand, très bien. C'est pour ça que j'ai le trac quand je parle allemand devant toi. mais alors donc, Britton, anglais, Cenerentola, version française, italien, allemand. Bon, allemand, ça va. Mais ça veut dire qu'un chef de chant doit savoir parler plusieurs langues ?
Alors, c'est pas obligatoire, disons, mais c'est quand même un grand avantage. Parce que pour faire des coachings, pour apprendre des opéras dans une langue étrangère, c'est quand même pas mal de, au moins, comprendre un peu et savoir les règles de la prononciation.
Et oui, bien sûr. Ouais. Et puis, on peut chanter aussi en tchèque, en beaucoup de choses, en russe, les Tchaïkovski, etc.
Oui.
Donc, c'est très, très large. C'est une formation très complète. Et d'ailleurs, à l'Opéra Studio, est-ce que tu as bénéficié de cours de langue que tu étais...
Oui, bien sûr, on a eu des cours de français, évidemment.
Oui, est-ce que tu parlais français avant d'arriver ?
Alors, j'ai appris le français à l'école pendant 3 ans, donc pas trop longtemps. J'avais des bases, mais le français qu'on apprend à l'école, c'est quand même assez différent du français qu'on parle.
Le français de tous les jours, finalement. Oui.
Donc, oui, un peu, mais comme j'étais obligée à parler français dès le début, j'avoue, au début, c'était compliqué, mais je me suis débrouillée et ça s'est amélioré tous les jours.
Oui. Bah, tu parles très, très bien, bravo. Oui, non, c'est très, très bien. Et donc, tu es restée à l'Opéra Studio 2 ans, ça on l'a dit, mais pour rentrer à l'Opéra Studio, ça se passe comment ?
Alors, il faut passer un concours.
Oui.
D'abord, il faut postuler. Et pour le concours, il faut préparer des extraits, des opéras différents. Et il faut les jouer et chanter le même temps, ça c'est très important et ça fait partie des concours pour les pianistes chefs de chant. Et c'est normalement des opéras dans des langues différentes, donc au moins en français, en italien, en allemand. Il faut aussi jouer sous la baguette d'un chef pour ce concours.
Oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé ça, pour les répétitions de mise en scène, parce que c'est tellement évident dans notre métier, mais c'est vrai que le chef de chant, comme il remplace l'orchestre, comme l'orchestre, il doit suivre la battue du chef d'orchestre. Oui. Parce que pourquoi, Carolina, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on a besoin d'un chef d'orchestre entre un pianiste et puis les chanteurs qui sont sur scène pendant les répétitions.
Bah, il faut quelqu'un qui tient tout ensemble, en fait. Et à la fin, si on a l'orchestre, il y a beaucoup, beaucoup du monde qui joue. Et il faut quelqu'un qui donne l'entrée, qui donne aussi l'entrée pour les chanteurs, parce que les chanteurs sur scène, ils entendent pas très bien l'orchestre.
C'est ça. Ce dont on se rend pas toujours compte, c'est que, et l'orchestre, parfois, les musiciens d'orchestre, parfois, n'entendent pas toujours les chanteurs, parce que finalement, le son leur passe dessus. Et c'est vrai que le chef d'orchestre est là pour synchroniser un peu tout le monde. Enfin, tout le monde regarde le chef. C'est vraiment lui qui fait en sorte que tout le monde puisse chanter et faire de la musique ensemble et jouer ensemble.
Et qui est aussi responsable, en fait, pour la préparation musicale pour.
C'est ça. S'il décide de faire un petit ralenti, s'il décide de faire, chaque chef d'orchestre apporte sa patte, finalement. Même, ils restent tous dans le style, évidemment, de l'œuvre qu'ils défendent. Mais c'est vrai que chacun y apporte sa personnalité et c'est la richesse, justement, de l'opéra. Parce qu'on peut aller voir 100 fois la Bohème et 100 fois ce sera différent parce que ce sera 100 fois vu par un chef d'orchestre différent. Et c'est ce qui est beau à l'opéra, vraiment. Ouais. Et c'est toujours d'actualité parce que finalement, l'opéra, ça traite des sentiments humains. Donc c'est vrai que bon, parfois ça se passe dans des temps très lointains, mais les hommes dans les temps très lointains avaient à peu près les mêmes problèmes amoureux, de jalousie, de pouvoir, c'est un petit peu toujours ça finalement les sujets d'opéra. Donc c'est sublimé par la musique, mais on est toujours un petit peu dans les petits soucis du genre humain. Donc ça nous parle. Et donc pendant ces 2 années, resté à travailler à l'Opéra Studio, tu as tiré, je pense, des enseignements. Quelle expérience, est-ce que tu peux dire que en sortant de l'Opéra Studio, tu étais un tout petit peu différente que quand tu es rentrée?
Oui. Alors, déjà, premièrement, le fait de parler une langue étrangère couramment et aussi le plaisir d'avoir pu travailler avec des professionnels qui connaissent le métier, qui connaissent le monde d'opéra, en fait, qui travaillent dedans depuis très longtemps, des chefs mais aussi des pianistes chefs de chant. On a pu profiter des masterclass aussi, ouais, le fait d'avoir gagné du répertoire, d'avoir joué beaucoup de répertoire aussi, d'avoir fait pas mal de coaching et prendre l'habitude.
De travailler au quotidien. Et puis, vous avez aussi non seulement à apprendre les rôles aux chanteurs pour les spectacles d'opéra, mais aussi pour les récitals. Oui. Et puis, vous êtes aussi très pris pour des actions pédagogiques. Vous jouez beaucoup pour le jeune public. Vous jouez pour toutes sortes d'événements. Enfin, c'est très, très, très complet ce qu'on vous demande de faire et très varié. Et chaque activité, finalement, apporte sa pierre ou sa partie de puzzle qui constitue après votre personnalité artistique. Et on en est très heureux quand on vous voit partir et vous envoler. Parce que, chère Carolina, suite à ton départ, tu as quand même fait de très belles productions dans divers pays. Est-ce que rapidement, parce que je vois qu'on a été très bavarde, est-ce que rapidement tu peux nous dire dans quel théâtre tu as été engagée à la suite de tes 2 années passées à l'Opéra Studio?
Alors, j'ai été re-engagée à l'Opéra du Rhin de Strasbourg.
Bravo. Ah oui, bien sûr, pour une très belle production.
Oui, j'ai fait La Reine des Neiges.
Ah oui, c'était magnifique. Ouais. Quelle musique, ça, il fallait le jouer. Hein.
Ouais.
Bravo. Oui, oui, oui. J'étais là, je t'ai entendu. Ouais.
Et j'ai aussi fait Così fan tutte.
Oui, de Mozart, bien sûr.
Un projet avec le ballet.
Oui.
Danser Schubert.
Oui.
Et j'ai aussi travaillé avec les chœurs.
Oui.
Donc, ça, c'était bien de quand même rester un peu à la maison. Et sinon, j'ai fait des productions en Allemagne.
Oui.
Et là, récemment, j'ai aussi fait des productions au Danemark,
très
à Copenhague.
Bien. Très bien.
Où je vais aussi retourner bientôt.
D'accord. Et justement, je voudrais passer, parce qu'on a été très bavarde, on va passer directement au 3e extrait. Et justement, c'est un compositeur danois que tu as choisi. C'est un compositeur qui est toujours vivant. Ce compositeur s'appelle, je vais le trouver, alors je ne sais pas comment on prononce ça, Paul Rudders, c'est comme ça qu'on dit, environ, ouais, environ. Bon, il me pardonnera s'il m'écoute, mais il va me pardonner parce que je vais lui souhaiter un très bon anniversaire. Il a eu 74 ans le 27 mars dernier. Donc, il va me pardonner, c'est obligatoire, ouais. C'est obligatoire. Donc, l'extrait dont tu nous, vas nous faire profiter, c'est un extrait de la, attention, je ne trouve plus mes notes, ça va venir, de La Servante Écarlate. L'action se déroule, alors là, carrément, on passe en 2195, hein, là, directement, on fait un grand bond, et l'action débute par le 12e symposium sur la République de Galade, qui est réuni ce jour-là par vidéoconférence. Et bien voilà pour cet extrait de La Servante Écarlate du compositeur danois Paul Rudders. Je suis désolée une nouvelle fois, c'est pas comme ça qu'on dit certainement, mais c'est pas grave. Encore une fois, il me pardonnera, j'espère, parce que bien évidemment, il écoute RDL 68, bien évidemment. Mais bien sûr. Et donc, cet opéra que tu as choisi de nous faire écouter, en fait, tu l'as toi-même travaillé et joué. En présence du compositeur lui-même.
Exactement, oui.
Mais quelle chance !
Oui.
Mais quelle chance !
Oui.
Enfin, pour lui aussi, d'avoir une très bonne pianiste. Ah, mais c'est une très belle expérience, j'imagine. Oui. Tu as dû être heureuse.
Oui.
Ah oui, c'est formidable d'avoir... Parce que c'est pas souvent qu'on a les compositeurs, parce que Mozart, il passe pas souvent en répétition, par exemple.
Non.
Bon, voilà. Donc, quand on a un compositeur qui vient nous parler, on est bien content.
En fait. Oui.
Et quels sont tes projets pour la suite, chère Carolina ?
Alors, dans 3 semaines, je vais retourner à Copenhague et ouais. Je vais faire 2 productions avec l'Opéra Studio de là-bas.
Très
fait.
Bien.
Oui, c'est très cool. Et c'est Orfeo et Eurydice de Gluck,
oui.
Version italienne.
Oui.
Et The Rape of Lucretia de Britten.
D'accord.
Et après, je vais rester un peu au Danemark. Je vais faire Tosca à Aarhus.
Bien, chers amis, s'il fallait le démontrer, c'est fait, l'Opéra Studio, ça fonctionne. Voilà une Carolina qui est partie sur une belle lancée pour faire une très très belle carrière. Je te la souhaite bien longue, bien brillante et bien amusante.
Merci.
Il y aura beaucoup de travail, mais j'espère beaucoup de beaux moments à suivre. Chers amis, ben merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à notre Francis National qui est toujours là, patient, calme. efficace, qui a réalisé cette émission. Je vous dis à très bientôt. Soyez heureux, chantez, écoutez de la musique et prenez soin de vous. Au revoir.